Pour mener un projet de Big Data, de nombreuses questions se posent. Faut-il créer un Data Lab ou encore comment passer de l'expérimentation à l'industrialisation? La visualisation des données et leur accès font aussi partie des sujets à aborder, de même que les profils à recruter. Si le Big Data vous intéresse et que ces questions sont aussi les vôtres, alors cette chaîne est faite pour vous. Se lancer dans le Big Data, c'est avoir la conviction que l'on peut tirer un avantage compétitif de l'exploitation intelligente des données. C'est chercher à comprendre ce qui s'est passé et pourquoi c'est arrivé. C'est aussi essayer de prévoir ce qui va arriver et tirer parti de cette prédiction pour optimiser l'atteinte d'un objectif. La promesse du Big Data consiste donc à accélérer la prise de décision, voire à automatiser l'action qui découle de la décision. Pris sous cet angle, le Big Data permet donc de faire mieux et plus vite que ce que l'on fait déjà aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout. Le Big Data permet d'aller encore plus loin. C'est aussi l'opportunité d'ubériser son propre business avant que d'autres ne le fassent. C'est l'occasion de changer radicalement son business model, comme l'a fait Michelin. En transformant ses pneus d'avion en objets connectés, l'entreprise a changé son mode de contractualisation pour vendre un nombre de décollages et d'atterrissages plutôt que le pneu lui-même. Autre exemple, celui de ThyssenKrupp, qui a connecté ses ascenseurs pour vendre une prestation et non plus l'ascenseur lui-même. Pour les entreprises, le Big Data est une opportunité pour entrer de plein pied dans le monde de l'économie des usages et des services intelligents. Mais même si la promesse est belle, se lancer dans le Big Data, c'est souvent s'aventurer dans l'inconnu. Entre business case mal défini, ROI indéterminé ou encore plateforme technique imprécise. Pour comprendre comment mettre en place concrètement ce type de projet, rejoignons tout de suite Damien, responsable marketing de l'offre Data chez Microsoft. Bonjour Damien.
Bonjour.
Alors on l'a vu, pour se lancer dans le Big Data, il faut commencer doucement, mais concrètement, c'est quoi un projet Big Data?
Avant de dire ce qu'il faut faire dans un projet Big Data, j'aimerais dire ce qu'il ne faut pas faire. Il ne suffit pas de réunir des data scientists autour d'un jeu de données pour espérer que miraculeusement la valeur va en sortir. Ça n'est pas automagique. Alors cela étant dit, la première étape d'un projet Big Data, c'est d'exprimer clairement un objectif business. Par exemple, réduire la fraude, par exemple, améliorer ses ventes, ou ce qu'on a fait avec une entreprise du secteur de l'énergie, prédire la probabilité de démission d'un collaborateur, pour évidemment retenir les talents. Donc ça, c'est la première étape, définir un objectif business. La deuxième étape, ça consiste à expérimenter, dans une approche test and learn, essayer sur des cycles courts d'une à deux semaines, de voir si on est capable d'adresser l'objectif business. Donc dans cette phase, on va essayer de comprendre ces données avec des outils puissants d'analyse de données, on va définir une stratégie data science, on va préparer les données, on va essayer différents algorithmes, et puis on va déterminer si on a un gain à l'arrivée. Alors la bonne nouvelle, c'est comme on fait une démarche de type test and learn, même si on échoue à atteindre l'objectif, on a quelque part appris quelque chose.
Concrètement, comment démarrer quand on n'a pas les compétences en interne?
Alors plusieurs approches, une approche assez classique qui consiste à faire appel à des compétences externes. Chez Microsoft Consulting Services, par exemple, on a une offre qui s'appelle Hackfest, qui permet en deux semaines, sur la base d'un scénario décrit par le client, avec ses données, de voir si on sait l'adresser. On a aujourd'hui une cinquantaine de clients qui ont souscrit à l'offre dans l'espace d'un an. Une deuxième approche, c'est par exemple de monter un hackathon, c'est ce qu'on a fait avec LVMH, qui souhaitait mieux comprendre l'image de la marque sur les réseaux sociaux, anticiper ses ventes, mieux comprendre l'évolution du luxe. Et dans ce contexte, ils ont réuni avec nous une centaine de data scientists autour de leur jeu de données pendant deux jours pour voir s'ils étaient capables de répondre à leurs questions. Et puis une approche encore plus disruptive qui fait vraiment appel à fond au crowdsourcing consiste à faire appel à des plateformes type Kaggle aux États-Unis ou datascience.net en France. Des entreprises comme Netflix, par exemple, ont mis leur jeu de données sur ces plateformes-là, ont proposé $1 million de prix à celui qui améliorait leur algorithme de recommandation. Et là, on a potentiellement, pendant plusieurs semaines, des milliers de personnes qui vont travailler sur le jeu de données. C'est en France aussi la SNCF, AXA ou encore Criteo qui ont mis leur jeu de données sur ce type de plateforme.
Alors, un mot maintenant sur le cloud. Comment intervient-il à ce niveau?
Alors on l'a vu, le cloud il intervient en fait à deux endroits. Il faut avoir une approche agile, en mode test and learn. Ça veut dire que la première étape, c'est d'être en capacité de provisionner rapidement les infrastructures et les logiciels. Donc c'est toute la force du cloud, de pouvoir provisionner à la demande un environnement en quelques minutes, de pouvoir l'adapter aux besoins du prototype et le moment venu, si on se rend compte que le scénario exploré n'est pas le bon, de décommissionner ces infrastructures. Le deuxième avantage clé du cloud, c'est de pouvoir fonctionner en mode bac à sable quelque part, sans perturber le système d'information en place. On va pouvoir expérimenter des scénarios, expérimenter des nouvelles technologies qui ne sont pas encore maîtrisées par l'IT, et ça sans perturber le système en place.
Et une fois le scénario business identifié et validé, quelle est l'étape suivante ?
Alors l'étape suivante après l'expérimentation, c'est vraiment l'industrialisation, le passage à l'échelle. Et ça nécessite de créer une véritable usine finalement à raffiner la donnée, une raffinerie de la donnée, une usine qui va permettre de passer de la donnée brute et de la valoriser jusqu'à la décision, voire l'action. Et ça suppose d'organiser plusieurs briques technologiques, depuis la collecte, le stockage, le traitement en temps réel, le streaming, voire le machine learning, donc le prédictif, jusqu'à la data visualisation. Donc il faut une plateforme qui permette rapidement d'organiser ces briques, de les agencer, parce que c'est l'organisation de ces briques qui va générer la valeur attendue par le client. Le deuxième aspect, c'est qu'une fois qu'on a créé cette usine, elle n'est pas figée, elle n'est pas statique. Comme on a appris à partir des données et que ces données évoluent, il va falloir régulièrement que cette usine évolue avec l'évolution des données. Donc c'est là que le cloud permet d'y répondre, en permettant la création d'une chaîne complète de traitement et de valorisation des données à la demande.
Alors, quels sont les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait construire cette raffinerie ?
Alors, la première étape, on l'a vu, c'est l'agilité. Et si on regarde aujourd'hui l'écosystème Big Data, on se rend compte qu'il y a un véritable bestiaire. On entend parler de Spark, Hadoop, Kafka, R, Scikit-learn, et j'en passe et des meilleurs. Donc, le premier conseil, c'est vraiment d'avoir un partenaire qui vous propose l'ensemble des technologies disponibles sur le marché et qui vous permet de les mettre en œuvre rapidement, que vous passiez moins de temps à les comprendre et plus de temps à les utiliser. Le deuxième conseil, c'est d'avoir des solutions prêtes à l'emploi. On a parlé d'une usine à raffiner les données. Si on est capable d'avoir cette usine prête à l'emploi pour un scénario business, c'est l'idéal. Donc c'est exactement ce qu'on propose par exemple avec Microsoft Azure, avec des scénarios comme la recommandation et l'analyse de fraude pré-câblée. Le deuxième aspect, c'est de faire appel à un partenaire qui a de l'expérience et va accompagner votre croissance des usages. On parle de big data, on peut donc parfois avoir des volumétries importantes. Et là, il faut faire appel à quelqu'un qui sait utiliser ça. Donc chez Microsoft, nos solutions big data ont déjà été exploitées pendant des années pour nos propres usages internes. Ce sont des volumétries qui représentent typiquement aujourd'hui 100 fois ce que quotidiennement Google manipule.
Est-ce qu'il faut un data scientist pour tous les projets big data ?
Alors clairement, non. On se rend compte que dans 80% des besoins, nos clients ont des sujets récurrents à traiter, que ce soit de la recommandation, que ce soit, on l'évoquait tout à l'heure aussi, l'analyse d'attrition. Dans ces cas-là, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Microsoft propose des offres sur étagère, prêtes à l'emploi, qui permettent à un développeur, au travers d'API, d'invoquer les services qui sont disponibles. Donc c'est typiquement ce qu'on a fait avec une société d'e-commerce au Japon et un partenaire qui s'appelle Vimob. L'application mobile qui a été mise à disposition identifie l'utilisateur au travers d'une photo et le caractérise. Donc on sait qu'on a affaire par exemple une femme de 25 ans et on va donc pouvoir ajuster le catalogue produit, l'expérience utilisateur à ce profil. Il n'y a pas eu besoin de déclarer que j'étais une femme de 25 ans par exemple. Donc ça c'est typiquement grâce à des API et des algorithmes sur étagère.
Donc ça, c'est pour 80% des scénarios récurrents, mais que fait-on des 20% restants ?
Alors, pour les 20% restants, qui sont des cas atypiques ou spécifiques, dans ce cas-là, on va créer une petite équipe projet. En général, il y a trois profils. Il y a un profil plutôt business, qui a pour mission d'expliquer les objectifs business à la petite équipe, et réciproquement, une fois que des résultats ont été obtenus, de les expliquer à la direction générale. Évidemment, on a dans l'équipe un data scientist dans ce cas-là. Ce data scientist est là pour s'assurer que les choses sont faites dans les règles de l'art, notamment d'un point de vue statistique. Et puis le dernier profil, c'est celui d'un développeur. On va passer 80% de son temps à préparer les données pour les étapes algorithmiques de data science. Donc il a un job qui est clé dans cette équipe. Vous noterez au passage que je n'ai pas du tout cité de rôle en termes d'infrastructure. Dès lors qu'on fait appel au cloud, on n'a pas nécessairement besoin de faire appel à ce type de profil. Donc ça, je dirais, c'est le premier cercle. Puis il y a le deuxième cercle, dans certains cas, ça peut être le service juridique. Dès lors qu'on fait appel à des données qui sont des données nominatives, on doit respecter un certain nombre de règles, notamment la CNIL. Et dans ce cas-là, avoir le service juridique à ses côtés, c'est clé.
Eh bien, merci Damien pour toutes ces précisions.
Merci.
Vous l'aurez compris, les données sont un asset stratégique que le Big Data permet d'utiliser. Mais pour cela, il faut développer une culture de la donnée au sein de toute l'organisation et accepter que les conclusions de ces données puissent impacter, voire orienter les stratégies. Vous souhaitez construire une raffinerie de données, faire de l'analyse prédictive ou encore de la data vise avec les données ? Regardez les autres vidéos consacrées au Big Data et à l'Internet des objets sur cette chaîne.